Au niveau de la Banque mondiale, le principal outil qu'on a utilisé ces 10 dernières années au niveau sous-régional pour la question de la génération et le transfert des technologies, c'est le West Africa Agricultural Productivity Program, WAP, qui a couvert 13 pays sur les 15 pays qui comptent la CEDEAO. En fait, il y a deux pays, le Guinée-Bissau et le Cap-Vert, qui n'ont pas intégré le programme, mais qui ont participé quand même et qui ont profité, bénéficié des résultats du programme. Donc c'est un programme qui a pris comme angle... Avant, on travaillait pays par pays. Donc on essayait de faire les mêmes choses. On appuyait la recherche, la vulgarisation, les mêmes activités dans chaque pays. Mais on a vu que ce n'était pas efficace parce qu'il n'y avait pas de masse critique, des chercheurs avec les capacités pour faire une recherche efficace. Il n'y avait pas également des mises en commun, des échanges, des partages de technologies. Donc, on a changé et maintenant, notre porte d'entrée, c'est une entrée régionale pour essayer d'améliorer donc, la productivité et donc atteindre aussi les objectifs de réduction de la pauvreté, de la malnutrition et puis aussi les objectifs de la Banque mondiale. À la fin, vous voyez, les objectifs de la Banque mondiale, c'est éliminer l'extrême pauvreté et disons avoir une croissance partagée. Ça, c'est les objectifs de la Banque mondiale à la fin, pour, mais qui rejoignent aussi les objectifs des pays. Hein. Alors, le WAP, en fait, l'innovation par rapport au programme qu'on avait avant, ça a été vraiment d'utiliser des innovations, de ne pas aller rabâcher les mêmes choses que les producteurs connaissent un peu, les dates des semis autres, mais c'est devenu avec des innovations. Et c'est l'innovation qui a entraîné les changements dans tous les domaines, dans le domaine de la production, dans le domaine de la transformation, dans le domaine aussi de la mécanisation, les semences et tout ça. Donc c'est ça qui a été vraiment, ça fait qu'il y a eu beaucoup d'adhésion autour de ce programme. Et le programme a touché autour de 10 millions de producteurs dans la sous-région, directement, hein, et on compte plus de 50 millions de producteurs de manière indirecte. Hein. Bon, ça, c'est pas la peine que je vous montre ça, c'est juste pour montrer que c'est un programme qui, pour la banque, était un flagship programme, hein, puisque si vous regardez, quand même, c'est un programme qui a couvert... c'est plus le grand programme au niveau de la Banque mondiale, parce que c'est un programme qui a couvert 13 pays. Et une des caractéristiques du WAP, c'est de réorganiser le système de recherche en Afrique de l'Ouest en mettant en place des centres qu'on appelait au début des centres de spécialisation et sous-régionaux. Et avec l'objectif de les transformer en centres d'excellence sous-régionaux sur la base de 9 critères qui ont été définis ensemble au niveau et sous l'égide de la CEDEAO. Donc voilà les 9 comme ils sont situés. Vous voyez comment c'est distribué. Le riz c'est au Mali, l'élevage au Niger, les céréales c'est au Sénégal. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voici un peu comment sont. Alors chaque centre en fait chaque année une planification régionale, et dans cette planification régionale, tous les pays qui sont intéressés par la filière, hein, viennent participer et ils font donc des programmes communs, hein, de recherche, et les résultats sont mis à la disposition de chaque pays. Donc ça, c'est la caractéristique en fait de ce programme. Donc vous voyez, ça, ce sont les échanges de technologies entre les pays. Donc lorsqu'une une technologie est développée dans un pays, automatiquement ceux qui sont intéressés vont les chercher, viennent donc les diffuser dans leur propre pays. Donc c'est ça l'innovation, c'est vraiment de mettre en réseau toutes les connaissances qui existent, de les partager et que tous ceux qui sont intéressés par ces connaissances puissent les prendre et les diffuser. Voilà. Et le WAP a beaucoup travaillé aussi sur les questions des semences. Vraiment un accent particulier pour essayer d'augmenter la disponibilité des semences certifiées, mais en travaillant sur les politiques sémencières sous-régionales, sur la politique, parce qu'il y a une réglementation sous-régionale sur les semences, en essayant aussi de travailler pour augmenter la production des semences certifiées, en travaillant avec les compagnies sémencières, et aussi en renforçant tout le système de certification, de contrôle des semences, les laboratoires et tout ça. Donc, dans les différents pays, avec l'USAID, qui a également un autre programme qui est appelé le WASP, West Africa Seed Programme. Donc, le WASP a beaucoup travaillé avec l'USAID. Bien sûr, aussi, notre collègue Agra n'est pas là, mais Agra aussi a travaillé. On a beaucoup travaillé avec Agra aussi, puisqu'ils ont renforcé aussi, surtout les compagnies sémencières, les privées. Donc, c'est un travail qui a porté beaucoup de fruits et qui a permis de même de créer un marché des semences au niveau sous-régional. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, le WAP a beaucoup travaillé avec Africa Rice pour la production de semences de pré-base, aussi pour l'introduction de nouvelles variétés, et aussi pour le renforcement des capacités des chercheurs sur le riz. Et même en assistance technique, par exemple, Africa Rice a beaucoup travaillé au Libéria, en Sierra Leone, au Mali, en termes d'assistance technique. Par exemple, il y a eu deux chercheurs d'Africa Rice qui ont été postés pendant la durée du projet, qui ont été financés par le projet, au Libéria et en Sierra Leone, pour vraiment revivifier le système de recherche. Et dans le cadre du WAP aussi, on a eu un financement du Japon d'environ 35 millions de dollars, mais qui était destiné à quatre pays, les pays de Mano River Union. Et ces pays, c'est la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et là, ce financement a permis effectivement de renforcer la filière riz, mais dans tous les aspects. Bon, ça, c'est le financement du WAP. Ça fait presque un demi-milliard de dollars pour les 13 pays. Vous voyez les pays qui sont impliqués. Il y a des pays qui ont eu quand même deux séries, c'est-à-dire deux séries de 5 ans, ça fait 10 ans. Des pays comme le Mali, le Sénégal et le Ghana ont eu 10 ans de WAP. D'autres pays ont eu juste 5 ans et je crois que les derniers pays ont environ 8 ans. Ils vont terminer en 2019. Il y a eu beaucoup de résultats, on ne va pas rentrer dans les détails de ces résultats, parce que ce n'est pas l'objectif. Mais il faut voir que le WAP arrive à sa fin, la série des WAP arrive à sa fin. C'était un programme sur 10 ans, donc arrive à sa fin. Et on a réfléchi avec la sous-région, avec beaucoup d'analyses, d'études, pour regarder comment on peut faire pour aller au-delà du WAP et avoir un impact réel sur la transformation. Donc, dans le cas du WAP, il y a eu de bons résultats, mais la question, c'est le scale-up. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces innovations soient diffusées à grande échelle pour pouvoir avoir un impact sur un impact macro. Je prends un exemple avec le SRI, le système de riz intensive. On est arrivé à tripler les rendements. J'ai visité beaucoup de paysans SRI, et je crois qu'il y a des gens qui sont ici dans les différents pays, la Gambie et autres. On a vu qu'avec le SRI, on peut passer avec 2 tonnes et demi, 3 tonnes, jusqu'à 6 tonnes, 5 tonnes à l'hectare, parfois même plus. Il y a des paysans qui ont eu des pics plus élevés. Donc la question, c'est comment diffuser ça maintenant à grande échelle pour avoir un grand impact. Voilà. Donc, il faut dire que je n'ai pas montré un slide qui montre les résultats. On a fait une étude d'impact qui a montré que pour les bénéficiaires du WAP, on a eu une augmentation moyenne de rendement d'environ 30%. Mais comme j'ai dit, les bénéficiaires du WAP, c'est quoi? C'est 10 millions par rapport à combien de millions de producteurs. Donc il faut arriver à mettre à échelle ces innovations, ces technologies, toutes les nouvelles variétés, les techniques qui ont été abordées. Donc pour le WATP, c'est un projet qui veut aller au-delà du WAP pour continuer effectivement ce que l'Europe a réussi et surtout mettre à échelle l'adoption des technologies et innovations qui ont été mises au point. On va continuer toujours à faire un peu de recherche, mais mettre l'accent surtout sur la diffusion des innovations et l'adoption à grande échelle. Mais en même temps, voir comment on peut utiliser tout ça pour créer plus d'emplois pour les jeunes et aussi travailler sur les questions de l'accès au marché. Donc on prend maintenant un peu plus la chaîne de valeur, pas seulement en termes de technologie, mais en termes aussi d'assurer les liens entre les différents acteurs. Et c'est dans ce cadre-là que cette étude a été lancée, parce que le riz est parmi les spéculations prioritaires du WAP et du WATP. Et la question, c'est comment accélérer donc la transformation de la filière riz en Afrique de l'Ouest. Donc on ne veut plus regarder seulement les questions de production, productivité, mais on voit aller au-delà, parce que comme on l'a vu hier d'ailleurs, parfois en jouant sur le maillon de la transformation, on peut arriver à augmenter la productivité et accélérer l'adoption des innovations. Donc l'adoption des innovations ne dépend pas seulement de l'amélioration de la productivité, mais ça dépend aussi où est-ce que, quel est l'exutoire pour le marché. En même temps, on va essayer au cours de continuer à améliorer le cadre incitatif au niveau sous-régional. Donc il y aura cinq composantes. La première composante, c'est renforcer le nouveau modèle de mise au point des innovations, c'est-à-dire avec les centres d'excellence. Donc renforcer les centres d'excellence, renforcer les liens entre les centres d'excellence et les centres CGA, et aussi renforcer les networks des centres d'excellence au niveau de la sous-région. Donc pour le WATP, par exemple Africa Rice doit travailler dans la sous-région à travers le centre d'excellence sur le riz basé au Mali. Donc, et ce centre d'excellence a un réseau au niveau de la sous-région où tous les chercheurs de la sous-région se retrouvent pour travailler ensemble. La deuxième composante, c'est donc l'adoption des masses, c'est-à-dire le scale-up des technologies et la création d'emplois pour les jeunes. On a changé un petit peu en disant et les technologies pour les jeunes. Voilà. Parce que création d'emplois, c'était très large. Donc on a dit adoption des masses, mais aussi les technologies pour les jeunes. Donc quelles sont les technologies qui peuvent permettre à des jeunes donc, de s'installer? Par exemple, la production des semences, les services à l'agriculture, comme les services de mécanisation et autres, la transformation. Beaucoup de jeunes peuvent s'installer aussi dans ces domaines-là. La troisième composante, c'est la question des politiques des marchés et le renforcement institutionnel. Donc, sur les marchés nationaux, mais aussi le marché sous-régional. Hier, je crois, dans la discussion, d'ailleurs, il y a eu des échanges sur ces questions-là. Les questions soulevées par le Nigeria avec le Bénin, c'est des questions de politique et de marché. Donc, il faut qu'on ait des analyses, qu'on mette à la disposition des décideurs politiques pour qu'ils prennent des décisions. Et qu'on leur propose, on fait des policy briefs et tout ça pour ça. Et puis, on a une composante nouvelle qu'on met dans maintenant presque tous les projets de la banque, c'est la réponse rapide aux situations de crise. Par exemple, actuellement, on a, la chenille urticante, le Fall Armyworm, qui est en train actuellement d'attaquer le maïs et même d'autres spéculations. Donc, comment, dans des cas de crise comme ça, on a eu la crise Ebola à un moment donné, on a eu les locusts, c'est-à-dire les criquets, pèlerins. Donc, comment rapidement répondre? Donc, on met une provision des ressources non identifiées qui permet, en situation de crise, quelle que soit la crise, donc on a des crises éligibles, donc et on peut utiliser cet argent rapidement pour répondre à ces crises. Et puis, il y a la gestion du projet. Bon, voici pour le WATP, le premier. Comme j'ai dit, ça va couvrir l'ensemble des pays CEDEAO, mais ça, c'est le premier groupe de pays. Il y a 6 pays, Bien sûr, vous voyez qu'il y a le Cameroun qui a insisté, tapé à la porte pour rentrer dans le OATP en disant qu'ils sont très liés à l'Afrique de l'Ouest, donc ils ont été intégrés. Et donc, un peu plus de 370 millions de dollars pour les six pays. Mais dès que, et on espère que ce projet va aller au conseil d'administration de la banque pour approbation vers le milieu de l'année 2018. Et dès qu'il passe au conseil d'administration, on va commencer la deuxième série. Et déjà sur la deuxième série, on a le Nigeria, le Mali, le Niger, enfin on a certains pays qui sont déjà positionnés. J'espère que la Gambie va être là-dedans, mais je crois qu'il y a des discussions au niveau de la Gambie et de leur CMU. On pourra échanger là-dessus, peut-être en aparté. Alors, à côté du WAP et du WATP, on a aussi deux projets régionaux. On a le pastoralisme au Sahel et on a l'irrigation. Alors, c'est l'irrigation, je vais parler un peu de l'irrigation tout à l'heure, parce qu'en plus du WATP, on a quand même ce projet irrigation qui aussi va adresser les questions de la filière. Puisque le projet irrigation va essayer d'amener de nouvelles technologies d'irrigation et tout ça. Donc ça c'est juste pour montrer les ressources au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quand même beaucoup de potentiel pour l'irrigation. Pour l'irrigation, pour le moment aussi, ce projet commence avec six pays. Il a été déjà lancé depuis 2013, il y a eu beaucoup de travaux, et il a été approuvé en 2017 et maintenant il passe à la phase de mise en œuvre. Voilà. Pour le moment, c'est le premier lot, c'est 173 millions de dollars. C'est un programme de 173 millions de dollars. Donc là-dedans aussi, on a une série d'activités, une approche nouvelle où on met en commun les connaissances, les technologies, les innovations, et on les partage pour pouvoir, et on appuie la diffusion dans les différents pays. Voilà. Donc il y a une planification concertée, il y a une capitalisation des innovations, il y a le renforcement des associations, dirigeants et tout ça, il y a toute la partie appui institutionnel, et puis les pays se mettent ensemble d'accord sur des solutions. Ça peut être de l'irrigation goutte à goutte, améliorée, et une fois que c'est validé, en ce moment, c'est diffusé dans les différents pays. Voilà. Donc, voilà un peu l'objectif, la vision et l'approche en ce qui concerne ce programme. Et là, il y a trois composantes. Comme j'ai dit, la partie institutionnelle, le financement, c'est-à-dire les investissements en irrigation. Parce que, par exemple, le WATP et le WAP ne financent pas l'investissement en irrigation. Mais ce nouveau projet finance l'investissement en irrigation. Donc, c'est différent. Et puis, les questions de gestion des connaissances et de coordination. Voilà, je voulais m'arrêter là. Donc, c'est pour dire que, de manière globale, dans les programmes de la banque, on a beaucoup travaillé sur les questions de productivité, des technologies, on a beaucoup travaillé sur les questions des semences. Peut-être ce qui nous manque, on a quelques programmes nationaux qui ont travaillé aussi sur la chaîne des valeurs, mais ce qui nous manque, je pense, c'est vraiment de regarder l'ensemble de la chaîne des valeurs. Donc cet atelier est vraiment la bienvenue pour que, au niveau du WATP, peut-être qu'au lieu de travailler sur les questions de technologie, peut-être qu'il faut lancer tout de suite sur les questions de transformation. Et voir quels sont les modèles de transformation. Ici, peut-être il y a des petites unités de transformation qui sont plus performantes et tout. Parce que n'oublions pas, ce qu'on a vu dans le WAP, c'est qu'il y a un problème de compétitivité du riz local. C'est-à-dire que vous amenez le riz local sur le marché, les gens préfèrent acheter le riz, le riz importé. Pourquoi? Peut-être parce que c'est parfumé. Moi, je vois un pays comme le Ghana, ils ne mangent que du riz parfumé. Donc, les variétés, par exemple, qui ont été développées au Mali, les Ghanéens sont allés regarder, ils ont dit, bon, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce n'est pas suffisamment parfumé. Et ce qu'ils ont pris au Mali plutôt, c'est plutôt les techniques culturelles, c'est la mécanisation et tout ça. Bon. Donc, il faut bien savoir quels sont les domaines dans lesquels on doit intervenir pour vraiment pousser la filière. Et c'est pourquoi j'ai bien apprécié l'approche, peut-être c'est Cambodge, je crois, où hier on nous a dit, ils ont regardé tous les maillons de la filière et ils ont dit, bon, on va se focaliser sur ce maillon-là, parce que c'est là, si on agit sur ce maillon, il va tirer tout le reste de la filière. Donc chez nous, il faut qu'on sache où est-ce qu'on doit agir. Voilà. Moi, je vois un pays comme la Guinée, ils ont mis beaucoup d'investissements sur le riz, mais ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on regarde la Guinée, ils n'ont pas de, ils font pas de transformation. Tu achètes le riz local, c'est plein de cailloux. Hein? Et ce n'est pas de bonne qualité, ce n'est pas poli et tout. Donc, quand on va au marché, les gens ne prennent pas ça. En Guinée, on a travaillé, par exemple, sur le riz étuvé, parce qu'ils mangent beaucoup de riz étuvé. Et on a amélioré la technologie. D'ailleurs, Africa Rice a sorti aussi une innovation sur l'amélioration de la technologie d'étuvage, qui fait que tu as du riz de meilleure qualité, et du riz, il n'y a pas de cailloux, c'est bien fait. Mais automatiquement, il y a eu un premium sur les marchés. Le riz, avec la méthode améliorée d'étuvage, hein, a été acheté plus cher que le riz étuvé traditionnel. Donc, voilà, donc je veux arrêter là. Et j'espère, en tout cas, nous on espère que à la fin de toutes ces analyses, on va, hein, c'est notre attente aussi, on va arriver à voir vraiment quels sont les maillons sur lesquels on doit jouer. Où est-ce qu'on doit orienter les financements qu'on a actuellement? Vous avez eu à 300 millions. Mais où est-ce qu'on va orienter les financements en ce qui concerne la filière riz pour vraiment avoir un impact rapide et arriver à la transformation? Parce que les questions que les ministres des Finances me posent, je les rencontre souvent, c'est bien tout ce que vous faites là. Mais pour le moment, on continue à importer aussi beaucoup de riz, on sort des devises, et on ne voit pas vraiment quel est l'impact. Donc comment passer de la partie micro, hein, à la partie macro. Parce que quand on va en détail, on regarde, on voit qu'il y a eu des résultats intéressants, mais dans très localisés. Mais comment arriver à avoir un résultat macro qui a un impact vraiment, en sachant que la demande de riz est en train d'augmenter aussi, parce que la population urbaine augmente, la population globale augmente. Voilà. Est-ce que, même si on doit faire des importations, on va avoir toujours, parce que aussi dans les pays qui nous exportent, et aussi la population augmente, puisque la population mondiale même augmente globalement. On va passer bientôt de 7 milliards à 9 milliards de personnes. Voilà. Donc je vais arrêter là. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était bon quand même que vous sachiez un peu ce qu'on fait. Je vous remercie.